une histoire particulière. Elle avait le visage juvénile de Colette et la même attirance pour les lettres. Celle dont Céline Duchesnay et Laurent Polleret vous ont raconté l'histoire hier dans le premier épisode, Sérirette Maître Jean. Féministe, anarchiste, pacifiste, végétarienne, cette tulliste de caractère a combattu pour ébranler les structures d'une société de contraintes. Trop instruite et trop fière pour se placer comme domestique, trop ambitieuse pour entrer en apprentissage, comme l'expliquait Anne Stenner dans son livre réédité aux éditions Mille Sources. Une femme de la belle époque qui, ne pouvant devenir institutrice en quête de savoir et refusant le mariage de raison, devint anarchiste par goût de la liberté. Retrouvons-la tout de suite dans la tourmente de la bande à Bono.
Rirette Maître Jean, le bureau des rêves perdus, 1957.
Bono était un petit bonhomme assez râblé, avec une grosse moustache, des yeux un peu fuyants. Je l'ai connu très peu. C'était un type tout à fait le type de l'ouvrier vulgaire. Il n'avait pas cette teinte agréable qu'il y était en général dans les milieux anarchistes. Ni le vocabulaire, ni les manières, ni les allures générales. Et jusque-là, les anarchistes étaient souvent des petits chapardeurs, des petits cambrioleurs, surtout des faux monnayeurs. Pas tous, il y en avait quelques-uns. Tout à coup, ces garçons qui étaient tous des très jeunes gens, et qui étaient tous pleins de vie, pleins d'allant, se sont embarqués pour des choses beaucoup plus graves, mais insensiblement. Et puis, il est arrivé de Lyon, Bono, qui était, si j'ose dire, le seul vrai bandit authentique de la bande, et qui les a entraînés parce qu'il avait quelque chose que personne n'avait à ce moment-là dans notre milieu, qui était tout à fait rare, c'est qu'il savait conduire une automobile. Et c'est comme ça que ils se sont embarqués dans des choses beaucoup plus graves, dans des choses très graves.
Rirette Maître Jean l'Insoumise, second épisode dans La tourmente de la bande à Bono, un documentaire de Céline Duchesnay et Laurent Polleret. En novembre 1911, Jules Bono arrive à Paris. Il fuit Lyon, où la police le traque pour des cambriolages et du trafic de voitures. Qui est Jules Bono, Anne Stenner ?
Il appartient bel et bien, contrairement à ce que disent certains, au milieu anarchiste. Il a été aussi syndicaliste à un moment, et bon, là, il est plus proche d'anarchisme individualiste. Bono va, en fait, s'associer pour faire un coup au départ, avec ces garçons qui étaient à Romainville, et avec lesquels Rirette et Victor se sont un peu brouillés, et ont mis de la distance, d'ailleurs, en déménageant le siège du journal. Donc il y a Octave Garnier, Caïman, Caroui, etc. Ils pratiquent tous l'illégalisme, et toujours un petit cran au-dessus. Et ils rêvent d'un coup qui, une fois pour toutes, les libérerait de la cambriole, c'est-à-dire leur permettrait de vivre en anarchiste grâce au petit magot qui se serait fait. Et il faut pour ça faire un gros coup. Et pour ça, pense Garnier, il faut une voiture.
Frédéric Lavignette, vous êtes journaliste et auteur de la bande à Bono à travers la presse de l'époque. Un mois après l'arrivée de Bono à Paris, a lieu un premier attentat, celui de la rue Ordinaire.
L'attentat de la rue Ordinaire, c'est l'acte inaugural de la bande à Bono, même s'il y a eu des précédents, des vols dans les postes, des vols de voitures, des cambriolages, etc. Mais il se trouve que le 21 décembre 1911, on est aux environs de 9h, on est rue Ordinaire, dans le 18e arrondissement à Paris. Et là, un garçon de recette de la Société Générale, qui porte le nom de Ernest Cabi, se rend à l'agence de la banque, qui se trouve au 146 de la même voie, et pour y déposer l'argent de la journée qui va faire fonctionner la succursale. Et sur son chemin, au niveau du 152, il se fait agresser sur le trottoir par deux hommes qui tentent de lui arracher sa sacoche. Alors il résiste, il y a une forme de tir à la corde avec la lanière de la besace, mais quatre coups de revolver sont tirés par les agresseurs. Le garçon de recette s'écroule, il est obligé d'abandonner sa besace, qui d'ailleurs ne contient pas beaucoup, il y a 5000 francs, et 200 000 francs en titre. Après cette scène qui est furtive, les bandits remontent dans une voiture qui est égarée sur le long du trottoir, le moteur tournant, pour pouvoir manier... Conduire déjà ces voitures, il faut avoir en plus des compétences mécaniques. Parce que Bono remplissait tout ça. Il était à la fois bon conducteur, il avait la compétence, il est très doué dans le maniement des automobiles. Il était conducteur né un peu. Et donc c'était en lui tout cette façon de manier le volant, de se guider dans les rues, de pouvoir échapper aux risques. Et cette habileté à la conduite va faire de lui finalement le héros entre guillemets que l'on connaît, quoi. Et puis la voiture s'enfuit dans Paris, et puis on ne la retrouvera pas. Sinon le lendemain, sur une plage de Dieppe, elle est vide évidemment, et la police qui va se rendre sur place aura bien du mal à identifier les empreintes digitales, puisque des mômes aux mains sales du quartier sont venus la recouvrir de leurs propres empreintes digitales. Donc à partir de là, la police est bien endettée, parce que elle n'a aucun moyen d'identifier qui étaient les occupants. Et donc la police se retrouve un peu désemparée. Elle est d'ailleurs moquée par la presse, par l'opinion publique, sur son incapacité à trouver les coupables, ou au moins dessiner un profil des agresseurs.
N'avions absolument aucune idée que ça pouvait être des anarchistes. Nous pensions que c'était une chose extraordinaire, qui avait été faite dans des conditions extraordinaires, puisqu'il y avait une automobile dans l'affaire, ce qui était absolument inhabituel à ce moment-là. Nous avons commencé à nous en douter tout de même, Victor Serge et moi, nous parlions de ça. Nous avons commencé à nous demander s'il n'y avait pas Bonneau dans cette affaire, et par conséquent peut-être les nôtres. Mais un beau soir, 3 jours après l'attentat, nous avons eu la visite tout à fait imprévue et qui nous semblait effrayante pour eux surtout, de Raymond Lascience et de Garnier, qui nous ont tout raconté, qui étaient assez déprimés parce que ça n'avait pas réussi, n'avait pas rapporté grand-chose, sauf des valeurs, qui étaient difficilement monnayables. Nous étions assez épouvantés de cette visite parce que nous savions que tout le quartier était gardé, naturellement. Nous les avons suivis des yeux assez longtemps et je ne sais pas par quel miracle ils ont filé.
Frédéric Lavignette, l'attaque de la rue Ordener met la police sur la piste du journal L'Anarchie. Il y aura une perquisition au 24 rue Fessard. Qu'est-ce que trouvent les policiers ?
Oui, au fur et à mesure des arrestations, la police va se rapprocher de la rue Fessard, qui est une rue entre Belleville et les buts de chemin. Après une série d'arrestations, d'abord d'Ed Veller, donc, qui a hébergé la voiture du hold-up, Louis Rimbaud, Marius Metsch, le garçon de recette va identifier, sur une photo qu'on va lui présenter, Octave Garnier comme étant son agresseur. Octave Garnier, on le sait, parce que la police a des informations, fréquente les bureaux de l'Anarchie. On va décider, à la Sûreté parisienne, d'aller faire une perquisition rue Fessard pour voir de quoi il en retourne chez Victor Serge et Rirette Maître Jean. On va mener une perquisition et on va découvrir des armes et des timbres-postes qu'on soupçonne avoir été volés dans une poste. À partir de là, Victor Kibalchich, alias Victor Serge, va être embarqué le 31 janvier et détenu. 3 jours après, ça sera le tour de Rirette Maître Jean d'être arrêté, mais on va la libérer dans la journée, dans l'espoir de la filer pour obtenir des informations. Et c'est évidemment une filature qui ne va rien donner. Et donc, par la suite, la police va continuer à mener ses enquêtes. Il va se trouver que d'autres événements vont se produire. Il va y avoir un meurtre d'un agent de la circulation, un meurtre qui va se produire en bas de la rue d'Amsterdam, non loin de la gare Saint-Lazare, le 27 février. Bien plus tard, le 25 mars, sur la route de Montgeron, des bandits, et on ne sait pas encore que c'est la bande à Bonneau, mais on se l'imagine, vont arrêter une voiture, vont abattre un des deux passagers, se diriger vers la Société Générale de Chantilly, et là, commettre un assaut, un hold-up, qui va coûter la vie à 2 autres personnes. Et cet événement est arrivé 2 jours après la deuxième arrestation de Rirette Maître Jean, qui elle va être transportée dans les bureaux du juge, qui va l'incarcérer dans ce mandat de dépôt dans la foulée, et elle va gagner la prison sombre de Saint-Lazare, où elle va rester finalement quasiment un an, quoi.
Cette première nuit, cette nuit d'arrivée à Saint-Lazare, c'était quelque chose de terrible. J'étais malade d'abord, j'avais la grippe. et très mal en point. Et alors, il y avait une vieille sœur qui était tout à fait célèbre, qui s'appelait la sœur Léonide, et qui faisait l'appel le soir des prisonnières. C'était absolument lugubre, c'était horrible cette prison, c'était tout à fait noir, c'était peint à noir jusqu'à la hauteur, des tiers de la hauteur des pièces. Et dans ces immenses couloirs, immenses, la vieille sœur était là, le nez plongé dans son registre, et il y avait une détenue qui était fille de service, qui lui tenait une lampe à pétrole, et elle appelait les gens. Alors, elle m'appelle aussi à mon tour. Alors, et vous, qu'est-ce que vous avez fait ? Je dis, ben, j'ai rien fait, ma sœur. Mais je ne me rendais pas compte que la plupart des prisonniers répondaient comme ça, n'est-ce pas ? Moi, je dis, j'ai rien fait parce que je n'avais vraiment rien fait. Alors, elle me regarde la fiche. La petite fiche avait des petits cartons comme ça, et puis sur son registre, il y avait l'inculpation, association de malfaiteurs. Elle dit, qu'est-ce que c'est que ça ? Pour elle, c'était... Je crois qu'on n'avait pas vu de femme inculpée d'association de malfaiteurs jusque-là. Alors elle me dit, qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Je dirais, j'ai rien fait, mais oh, elles sont toutes pareilles, il n'y en a aucune qui a fait quelque chose. Bon, sur ce, elle me désigne un dortoir, et puis elle me tend une chemise et des draps qui étaient raides comme la justice, comme on dit, quelque chose de terrible à voir, de couleur et de raideur. Et elle me dit, allez, faites votre lit. Puis elle s'en va, puis il n'y avait pas de lumière, parce qu'il n'y avait pas de lumière à Saint-Lazare. Alors on s'achetait des bougies, après moi je me fais comme tout le monde, je me suis débrouillée. Mais alors ce soir-là, j'étais emprisonnée avec des pauvres femmes, vraiment horribles, vraiment horribles. Et le troisième jour, j'ai été admise à la pistole. Alors la pistole, c'était des cellules qui étaient pour 3 ou 4 femmes. En principe, il ne fallait pas avoir une condamnation pour avoir droit à la pistole. On payait, je crois, 5 sous par jour. Et on pouvait s'acheter du charbon et faire du feu dans un vieux poêle. On pouvait s'acheter des bougies et s'éclairer si on voulait. Enfin, ça, c'était déjà tout à fait différent. C'était presque un palais à côté. Et je suis restée à la pistole 14 mois.
Jules Bonneau mourra le 28 avril 1912. Et alors, autre date importante, c'est celle du 3 février 1913, qui correspond au début du procès des survivants de cette bande dite à Bonneau. Qui reste-t-il parmi les survivants ?
Pendant une année pleine, le public a été tenu en haleine avec toutes ces péripéties, tous ces attentats, par toutes ces arrestations, etc. Sur toute cette période, il y a eu 16 morts quand même. 8 du côté des bandits et 8 du côté de la société civile, on va dire. Et donc, 3 des bandits, déjà, vont disparaître. Bonneau, qui meurt donc le 28 avril, a choisi le roi. Une quinzaine de jours plus tard, c'est Garnier et Vallée qui meurent à Nogent-sur-Marne. Au final, au procès, qui va s'ouvrir donc le 3 février, il va rester 20 personnes dans le box des accusés. Et donc ces 20 personnes vont devoir rendre des comptes pour tout le reste. Et donc, au premier rang du box, il y a Rirette Maître-Jean, et puis à ses côtés, Victor Kibaltchich, considéré donc comme les grands ordonnateurs de toute cette déferlante de violence, quoi. Et lorsqu'elle rentre, il y a un murmure qui va parcourir les rangs de l'audience, enfin des spectateurs. On va dire... « Ah, mais c'est Claudine !» Et tout ça du nom de l'héroïne de Colette, qui a publié une dizaine auparavant une série de livres sur Claudine. Claudine, parce que Rirette Maître-Jean apparaît avec un petit col, elle a un petit minois charmant qui la fait paraître une jeune fille toute sage. En fait, le public ne s'attendait pas à voir la complice de ces criminels sous cet aspect-là, si tendre, si doucereux. Il se trouve que justement, dans l'assistance, Colette est là pour le journal Le Matin, pour tenir une chronique. Et elle va faire une description de tout ce qui se dit, de tout ce qu'elle entend. Et ces pages sont aussi superbes que celles qu'elle a consacrées au siège de Choisy où Bonneau est mort. Colette va rétablir la situation dans sa chronique de façon assez, assez habile, moi je trouve. Elle va signifier que, ben non, on n'est pas dans la fiction, là, on est dans la réalité, et il ne s'agit pas d'une petite enfonçage, et la réalité que vous avez sous les yeux, ce n'est pas une héroïne de roman, c'est une femme, et il faut la considérer comme telle.
Sylvie Gravagna, vous êtes comédienne et metteuse en scène et vous travaillez actuellement sur une pièce de théâtre où vous incarnez Rirette Maître Jean. Alors pourquoi vous êtes-vous intéressée à Rirette Maître Jean ?
Elle a un destin qui est tout tracé, dont elle va essayer de sortir en fait. Je crois que c'est ça qui est vraiment intéressant. Et puis je pense que ça nous parle en tout cas, et ça parle à d'autres gens aujourd'hui, parce que justement c'est ce trajet de gens qui ont eu une forme d'instruction et malgré ce bagage, ils ne peuvent pas s'insérer dans cette société. En même temps, ça leur donne la capacité intellectuelle de critiquer le système. Enfin voilà, c'est un espèce d'endroit comme ça, un peu tremblant où tout est possible. Et puis bon, en plus, elle a un côté romanesque aussi parce qu'elle va par l'amour. Enfin, son côté femme amoureuse aussi est sympathique, j'ai envie de dire, et me parle aussi parce que et voilà, et on sent cette évolution de cette femme qui s'affranchit de plus en plus de ce à quoi elle était destinée et en tant que femme et en tant que prolétaire.
Comment est-ce que vous avez incarné Rirette jeune ? Vous êtes basée sur quoi ? Est-ce qu'il y a même une attitude à adopter ? Comment vous faites ?
Le fait qu'elle se soit révoltée, déjà, c'est une sacrée forme de caractère, hein, soyons clairs. Et puis que la rencontre avec les individualistes la convainc effectivement du bien fondé, du fait d'être une révoltée. Et puis bon, moi j'ai lu pas mal de journal L'Anarchie, je suis allée lire les articles, ce qu'elle a écrit, mais aussi le ton de ce que écrivaient les gens avec lesquels elle vivait, qu'elle fréquentait. Il y a une belle assurance, quoi. Il y a cette belle assurance de la jeunesse révoltée. Et ça, je trouvais ça important de faire sentir ça. Et puis parallèlement, comment ils se font fracasser. Avec peut-être, je me suis dit, mais peut-être l'endroit où il faut faire sentir la faille, c'est l'éventuel mépris qu'ils ont de leurs contemporains qui, eux, ne se révoltent pas, qui, eux, sont dans la soumission. Donc, pour l'incarner, j'ai essayé de trouver ça. Parce que moi, à 20 ans, j'avais pas du tout cette façon de penser, quoi.
Est-ce que vous pourriez me décrire cette photo de Rirette Maître Jean ?
Alors là, c'est la fameuse photo Claudine, hein, où on la voit. Alors, et en même temps, on ne se rend pas compte, peut-être, j'ai réalisé ça plus tard, elle a la petite coupe au carré des années 20. Donc c'est une précurseuse, hein, voilà, elle s'est coupée les cheveux bien avant la guerre de 14. Elle a ce petit col blanc, alors je crois que c'est les photos du procès. Hein. Donc forcément, pour un procès, on vous demande d'être bien mis, mais je pense que de toute façon, elle est bien mise, elle est coquette, elle aime bien. Et c'est ce fameux col Claudine qui lui fera sa réputation de Claudine anarchiste, sachant que c'est quand même Colette qui est sur les bancs du procès, qui va écrire pour le matin des articles sur le procès et qui donc va commencer elle-même cette légende de Claudine anarchiste. Voilà. Donc elle a quand même un regard très triste pour moi sur cette photo. Hein. Je pense que c'est une jeune femme, on dirait qu'elle a 16 ans. Hein. À l'époque, elle en a 23, mais elle a un côté joufflu. Et elle a quand même un regard très triste parce que je pense qu'elle était totalement abattue.
Le procès dure à peu près 3 semaines, le 27 février 1913, c'est donc la fin de ce procès. Quelles sont les conséquences pour ces différents accusés ?
Il va y avoir des condamnés à mort. Tout d'abord Dieudonné, Calmin, Soudy et Monnier. Dieudonné va bénéficier d'une grâce à Calmin, qui va dire que Dieudonné n'était pas à la rue ordinaire, comme on lui reproche. Moi j'y étais, je peux vous en parler. Donc, et c'est grâce à ce témoignage que la peine de Dieudonné va être commuée en travaux forcés à perpétuité. Ensuite, il y aura d'autres justement envoyés au bagne, ça sera Carouy et Medge. Des interdictions de séjour pour beaucoup. De Boué, par exemple, lui va être condamné à 10 ans de travaux forcés et autant d'interdictions de séjour. Kibalchich, lui, va écoper de 5 ans et de 5 ans d'interdiction de séjour. Il y aura seulement 4 acquittements. Rodriguez, Rirette Maître Jean, Marguerite Chouf, dite Marie Villemain, qui était la compagne de Octave Garnier, et puis Barbe Leclerc, qui était la compagne de Medge. Celles-ci vont ressortir libres après être passées récupérer leurs affaires à Saint-Lazare. Voilà.
Je suis sortie de prison le jour de la mi-carême. J'ai été ramenée à Saint-Lazare parce que il n'y a pas de prison de dépôt pour les femmes dans le palais de justice. Quand quand vous êtes acquitté, il faut qu'on vous ramène à Saint-Lazare pour vous délivrer, pour lever l'écrou. Alors, on m'a ramené à Saint-Lazare dans le panier à salade que je prenais pour la première fois. Et là, j'ai été congratulée, félicitée par le directeur, par le sous-directeur, qui avait toujours été très, très gentil pour moi, par la sœur Léonide, etc., etc. Et puis, je suis sortie par une petite porte de côté, qui n'est pas la porte de sortie de Saint-Lazare, parce qu'il y avait devant la porte une foule formidable. Je pensais que j'étais un petit peu troublée quand même. Et puis, je me suis enfoncée dans le métro, en vitesse, et je suis arrivée chez des copains qui m'attendaient. À Belleville. Et je n'avais aucune joie parce que j'y laissais Victor Serge. Au contraire, je sortais pleine de chagrin. Pour moi, je ne savais plus ce que c'était. Je ne savais pas. C'était pas la liberté pour moi. C'était pas la libération pour moi. Ça continuait. Ça continuait. C'est le cauchemar continuait. Non seulement je laissais Victor Serge, ce qui était le principal de ma vie, bien entendu, mais je laissais ces pauvres gars qui étaient condamnés à mort et que j'avais si bien connus, qui avaient fait partie de ma vie pendant quelques-uns des années. Raymond Lascience, Simantov, Soudi et Dieudonné.
Rirette sort libre de ce procès. Comment les choses se passent pour elle, car Victor Serge, lui, est emprisonné.
Donc les presses de l'anarchie ont été déménagées par un militant qui s'appelle Armand et qui s'est installé dans le 11e. Elle se met un peu en retrait par rapport au journal L'Anarchie et par rapport au milieu illégaliste, mais elle reste évidemment anarchiste de conviction. Alors elle va s'installer rue Julien Lacroix, dans le Bas-Belleville, avec ses filles. Elle travaille d'abord pour une compagnie d'électricité et puis ensuite elle travaille pour l'imprimeur, libraire Isaac Rirachowski, qui va être très sympathique avec elle. Vraiment, elle se trouve bien là et donc elle travaille comme typo, correctrice, mais elle lui sert aussi de secrétaire. Et quand Victor va pouvoir, après sa libération, il part en Espagne et à un moment il revient en France dans l'espoir de se faire intégrer dans l'armée, finalement, pour combattre, parce que sinon il est indésirable en France, il n'a pas le droit d'être en France. Rirachowski va l'employer. En tout cas, il y a beaucoup de tensions entre elle et Victor.
En août 1913, Anne Stenner, Rirette Maître-Jean, va publier ses souvenirs dans le journal Le Matin.
Mais elle attend l'issue du procès pour le faire. Alors, ses souvenirs vont paraître sous forme de feuilleton dans ce journal Le Matin, qui est vraiment un journal à très grand tirage. Ses souvenirs paraissent et vont beaucoup mécontenter le milieu anarchiste parce que elle parle avec une certaine ironie de ses camarades. Alors, je pense que ça a été réécrit. Elle a peut-être été interviewée ou elle a livré des notes à un journaliste parce que le style me semble pas être le sien et fait très journalistique. Elle est quand même un peu irrespectueuse par rapport à tous ces jeunes hommes qui quand même ont payé de leur vie tout ça. Mais en même temps, elle est extrêmement amère parce que c'est vrai qu'à cause de leur comportement et de leurs actions, elle a sa vie brisée. Hein. Le journal s'est terminé, son amour pour Victor est mis à mal, elle a souffert en préventive et elle a l'impression que les idéaux portés par Libertad, portés par le mouvement individualiste, ont été trahis par ces illégalistes forcenés. Et elle leur en veut et eux lui en veulent de les avoir dépeints sous un jour comme ça cruellement ironique dans ses souvenirs. Alors elle va recevoir une volée de bois vert. Tout le monde va lui tomber dessus, en tout cas dans les colonnes de l'anarchie, elle est très très maltraitée à cause de ça. Et on demande à Victor, quand il sort de prison, de se désolidariser des souvenirs de Rirette. Et lui ne veut pas. Donc il va plutôt la défendre, lui. Et qu'on doit compter à Rirette toutes ces années de militantisme. Ça ne doit pas passer à la trappe et qu'il faut essayer de comprendre son amertume.
Et comment se déroule la suite de sa vie? Elle va devenir correctrice?
Oui, elle devient assez tôt correctrice. Déjà dans les années, fin des années 20, début des années 30. À un moment, elle est à Paris Soir et elle a connu Camus dans ce cadre-là, puisque Camus écrivait des papiers pour ce journal, il était collaborateur, et il aimait beaucoup l'atmosphère du local des correcteurs, et il descendait souvent discuter avec eux. Et il s'est créé une amitié entre elle et Camus. Je sais qu'elle a assisté à son mariage. Elle a gagné sa vie comme correctrice dans la presse et dans l'édition, et elle a travaillé jusqu'au bout, parce qu'évidemment, il n'y avait pas de système de retraite à l'époque. Elle avait une vie assez contrastée. Donc, à la fin, elle corrige avec une loupe. Elle fumait des cigares Señorita, et puis en même temps, elle travaillait avec sa loupe. Il y avait des chats autour d'elle, jusqu'au moment où elle a été gagnée par la cécité. Donc là, elle ne peut plus travailler. Et à la fin, elle a été hospitalisée à l'hospice de Limeil Brévan. Vraiment, ça a duré une petite année. Hein. Et elle recevait beaucoup, beaucoup de visites, apparemment. Donc, parce que les gens faisaient un planning pour ne pas y aller au même moment. Et elle est morte, c'est une ironie du sort, en juin 68. Donc, peut-être a-t-elle eu quelques échos de ce grand mouvement qui a réjoui beaucoup d'anarchistes de son temps, parce que c'est tous les idéaux individualistes qui arrivaient, en fait. Et avec les mêmes thématiques, c'est incroyable. On a la remise en question de l'éducation autoritaire, de la monogamie, du mariage, du service militaire, de l'école telle qu'elle fonctionne, avec des expériences d'éducation anti-autoritaire dans lesquelles les anarchistes ont toujours été investis. Donc je ne sais pas si elle a perçu ça.
Le jouir sans entrave avait remplacé le vivre sa vie.
Voilà, c'est ça. Et je trouve que vivre sa vie, c'est mieux peut-être que jouir sans entrave. Mais...
Anita Hubel, est-ce que c'était une arrière-grand-mère qui aimait parler de son passé et en particulier de son passé d'anarchiste ?
J'étais jeune, je n'avais que 15 ans, mais lors des repas, on faisait de temps en temps des petits repas avec mon arrière-grand-mère, où c'était toujours assez fascinant. Et là, effectivement, elle nous faisait quelques confidences sur son passé. Elle nous a parlé un petit peu de la bande à Bono, un peu de ses années anarchistes qui avaient été quand même passionnantes pour elle, où elle avait vécu des années extraordinaires. Mais après, je pense que sa vie avait pris un autre cours, pas dans les idées, mais dans sa façon de... Elle avait une vie plus calme, plus tranquille, où elle était dans ses livres. Mais elle avait quand même gardé quelque chose qui m'avait toujours interpellée, c'est-à-dire qu'elle avait toujours la porte ouverte. Des amis n'allaient pas bien, elle recevait tout le monde, elle hébergeait peut-être d'anciens anarchistes qui étaient... qui ne savaient pas où aller. Elle était très généreuse pour tout le monde.
Et je vis depuis longtemps seule et je vis avec tous ces souvenirs-là qui sont, dont quelques-uns sont vraiment aussi précis que le premier jour. J'imagine un jour, par exemple, Victor Serge qui a eu sur ma vie une influence considérable. Quelquefois, je l'imagine comme ça, puis le lendemain, je dis non, ce n'était pas comme ça, je le vois autrement, et puis je recommence, et puis je brode sur lui. Il est certain que c'est ça le rêve.
C'était Rirette Maître Jean, l'insoumise, second épisode dans La tourmente de la bande à Bono, un documentaire de Céline Duchesnet et Laurent Polleret, avec Anita Hubel, Anne Stenner, Sylvie Gravagna, Frédéric Lavignette et la voix de Rirette Maître Jean. Mixage, Bruno Mourlan. Prise de son, Hélène Langlois. Archivina, Christelle Rousseau. Attachée de production, Sylvia Favre. Coordination, Christine Bernard. Merci à Rose Hubel et Jacques Beaujard.
Une histoire particulière, c'est fini. Je vous retrouve samedi prochain à 13h30. Il sera question d'un film, d'une faucille et d'un marteau, mais c'est une autre histoire.